On prend le temps cet été, on se pose. On va parler tourisme, animation et culture dans l'estival du local. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire de l'été sur l'autre radio, l'estival du local. Et oui, même fin août, on ne vous abandonne pas et on ne perd pas le rythme, en enfilant notamment notre plus beau costume de chevalier, cotte de maille, aume, bouclier et épée au château de Sainte-Suzanne. Des ateliers sont proposés aux chevaliers en herbe tout l'été pour une immersion totale au Moyen-Âge. L'occasion aussi de faire un focus sur l'histoire de ce château à l'emplacement si stratégique à l'époque. On garde le rythme en chanson grâce au festival des Mouilletins à Saint-Poix. C'est ce vendredi et samedi soir. 6 concerts, de nombreuses animations et quelques petits changements qu'on va découvrir. Et j'espère que vous n'êtes pas fatigués car en fin d'émission, on va enfourcher notre vélo sur le parcours de la Roda Road ce week-end. Un événement organisé en itinérance sur le chemin de halage pour notamment mettre en lumière la capoeira, cet art martial brésilien. Pour commencer donc, jouons au chevalier, même si à l'époque bien sûr c'était loin d'être un jeu. Toutes les semaines cet été au château de Sainte-Suzanne, les enfants à partir de 6 ans peuvent se glisser dans la peau d'un chevalier, découvrir les armes utilisées à l'époque, le vocabulaire médiéval et s'entraîner au combat, le tout évidemment dans le respect. Et tous se sont très vite pris au jeu, vous allez l'entendre.
C'est donc le fléau. On a des marteaux de guerre, il y en a un ici qui est allemand, un qui est français, à votre avis lequel? Alors en fait, celui-ci est français, celui-ci est allemand. Donc on l'appellera bec d'oiseau, bec de corbeau. Là, c'est une arme extrêmement redoutable. Alors aujourd'hui, on ne va pas voir tous les coups, parce qu'il faudra en retenir plus de 300. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps forcément de voir 300 gestes différents d'escrime. Aujourd'hui, on va essayer d'en voir 8.
Et on était par deux et on a appris 8 coups et c'était plutôt bien. Oh ça va, c'est facile, j'ai un peu l'habitude avec mes petits frères, de temps en temps on fait des combats d'épée avec des bâtons en fait. J'ai eu un diplôme, ce titre de chevalier décerné à Edan. En ce jour de l'année au château de Sainte-Suzanne, en tout cas en haut il y a une épée et il y a le prêtre et quelqu'un qui est à genoux, c'est nous. Le prêtre il avait l'épée, il nous a dit « Saint-Michel, Sainte-Suzanne, je vous nomme chevalier ». Ben, je vais l'accrocher dans ma chambre, comme ça, ça va me faire des beaux souvenirs.
Je suis Laurent Gandon, donc je suis animateur pour les épreuves du chevalier au SIAP à Sainte-Suzanne. Pour les enfants, déjà, pour leur apprendre ce qu'était un petit peu l'univers du chevalier. Alors, on va assez rapidement quand même, parce que présenter vraiment l'univers du chevalier, ça demanderait des années. Donc là, on essaie de le faire rapidement. Donc on passe à l'épée, on passe au bouclier avec quelques gestes d'escrime et puis ils sont adoubés au chevalier et puis une petite remise d'un diplôme derrière. Donc il est réalisé par un calligraphe enlumineur qui est Nika. J'essaie d'en dire un petit peu, mais pas trop parce que le langage médiéval est un langage compliqué et j'essaie de simplifier pour que les enfants puissent au moins retenir des petites choses, mais leur parler uniquement que le langage médiéval serait compliqué pour eux. Ils apprennent, j'espère qu'ils retiennent quelques petites choses que je leur ai appris. Voilà. La technique à l'épée, oui, je pense que ça va être plus facilement retenu que la partie histoire.
Notamment là pour les enfants, une bonne manière, j'imagine, voilà, qu'ils se représentent un petit peu mieux ce que ça pouvait être à l'époque.
Bah, c'est un petit peu ça, c'est essayer de les amener à voir des choses. Alors évidemment, là, il y a de l'armement, il y a de l'équipement qu'ils ne peuvent pas toucher, comme je disais, cause Covid. Mais habituellement, ils peuvent avoir la cotte de maille entre les mains, ils peuvent avoir les armes entre les mains, évidemment, avec moi à côté. Mais ça leur donne une autre vue du Moyen-Âge. Et moi, quand j'étais môme, j'étais frustré d'aller dans un musée, de regarder les armures derrière une vitrine. Et du coup, je me suis dit que le jour où je ferais de la reconstitution, si j'en faisais, eh bien, les enfants pourraient avoir entre les mains des choses que moi, je n'ai pas pu avoir. Donc voilà, bah, c'est chose faite.
Pascal Trégant, directeur du château de Sainte-Suzanne.
Le château, vous l'avez dit, c'est 11e siècle,
début
c'est ça
11e. Oui, début 11e siècle pour le donjon. Après, les constructions annexes et les remparts ont évolué entre le Moyen-Âge, et enfin le 11-12e siècle et la fin du Moyen-Âge, hein, fin du 15e, voire début 16e. Et tout ça a été complété par le grand bâtiment qu'on a en face de nous, là de l'autre côté, au fond de la cour, qui est du début du 17e siècle, qu'on appelle le logis, qui est le second monument emblématique de la cour du château de Sainte-Suzanne, qui a été construit par un autre Guillaume. Alors Guillaume le Conquérant, c'était au 11e. Là, on est au 17e avec Guillaume Fouquet de la Varenne, qui était ami et ministre, on va dire, d'Henri IV, et qui s'est fait construire ici, en gros, sa résidence de campagne.
Qu'est-ce que ça représentait, justement, ce donjon et ce château au 11e siècle, et peut-être ensuite, par rapport à ici, Sainte-Suzanne, et peut-être même la Mayenne, plus globalement?
Il faut bien imaginer que si on revient au début ou au milieu du XIe siècle, le château n'a pas l'allure qu'il a aujourd'hui, bien évidemment. Le donjon, comme partout à cette époque féodale, hein, c'est le symbole, c'est le signal dans le paysage qui montre qu'on arrive sur le territoire qui est détenu par un seigneur. Ici, c'était la famille des Beaumont, famille qui manifestement avait des moyens assez conséquents, puisque si on se replace au début du XIe siècle, la plupart des seigneurs locaux qui veulent signaler leur présence dans un territoire font élever ce qu'on appelle une tour sur motte, c'est-à-dire une grosse motte de terre avec un fossé autour, une palissade en bois, et au sommet, une tour faite de bois et de terre en général. À la même période, la famille des Beaumont peut élever un donjon qui fait 20 mètres de haut, en pierre, avec des murs de 3 mètres d'épaisseur. Ça veut dire des moyens conséquents que les seigneurs du secteur n'avaient pas la plupart du temps. Donc on est déjà sur une famille importante et qui se permet d'élever un bâtiment qui, 1000 ans plus tard, est quasiment, j'allais dire intact, j'exagère un peu puisqu'il nous manque la partie haute, mais a gardé son aspect quasiment initial. Il a été occupé du 11e au 15e siècle à peu près. On sent bien qu'au 15e, il y a une rupture. On abandonne le donjon qui est plus trop, soit dans les canons de la mode architecturale de l'époque, soit n'est plus aux normes, comme on dirait aujourd'hui. Et finalement, on le délaisse. La chance que l'on a, c'est que contrairement à beaucoup de monuments symbolisant l'aristocratie, à la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, il n'a pas été entièrement démantelé. C'est un lieu militaire important. On est sur une zone ici très importante au Moyen-Âge, pendant tout le Moyen-Âge. C'est pas pour rien que Guillaume le Conquérant, à la fin du XIe siècle, envoie ses troupes ici, fait un siège pendant quasiment 4 ans pour s'emparer de la forteresse de Sainte-Suzanne, parce qu'on est sur un lieu stratégique qui est un peu à la jonction de l'Anjou, de la Bretagne, de la Normandie au nord. Donc c'était un lieu stratégique, tellement stratégique aussi que quelques siècles plus tard, en 1425, les Anglais, pendant la guerre de Cent Ans, décident de s'emparer de Sainte-Suzanne, viennent faire le siège de Sainte-Suzanne, prennent le château. Pendant 15 ans, en gros, les Anglais sont restés maîtres du château de Sainte-Suzanne. Et il a fallu, nous raconte l'histoire, histoire ou légende, ça reste encore à définir, qu'un Anglais, John Ferraman, tombe amoureux d'une Suzannaise et par amour pour elle, finalement, il a trahi ses collègues et a permis aux Français de rentrer nuitamment dans le château pour qu'ils en redeviennent maîtres. Alors, on a attaqué des restaurations par le donjon en 2001 et on a terminé par le logis en 2007-2008, plus des reprises sur le rempart nord qui est derrière nous il y a un an et demi, deux ans. Donc, c'est presque 10 ans en continu de restauration parce qu'on était quand même sur un site qui en avait grandement besoin. Et que si notre métier premier, c'est de l'animer, de le rendre vivant et de l'expliquer au public, une de nos missions, c'est aussi de le conserver pour qu'il puisse perdurer plus longtemps possible et qu'on puisse le transmettre à tous ceux qui vont nous suivre et prendre la relève, quoi.
Le château de Sainte-Suzanne est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Le pass sanitaire est nécessaire pour entrer dans le centre d'interprétation, mais pas dans la cour du château, sauf en cas de grosses manifestations. Les prochaines épreuves du chevalier ont lieu le mardi 31 août à 15h et à 16h sur réservation au 02 43 58 13 00. Musique maintenant avec les Mouillotins. Habituellement prévu en juin, le festival prend ses quartiers ce vendredi et samedi soir à Saint-Poix, avec quelques changements et notamment de lieux. Ce sera dans le centre-bourg et non plus sur le terrain de foot. Donc pas de camping exceptionnellement cette année, mais toujours des concerts, 3 par soirée, et des animations familiales jusqu'à dimanche soir même cette année. On fait le point sur le programme en détail avec les organisateurs.
Donc moi je m'appelle Marie Danjou, je travaille pour l'association AMAC, association Mouillotin Animation Culture, qui est basée à Saint-Poix, dans le 53. C'est pas très loin de Cossé pour ceux qui y situent pas forcément. Je suis la nouvelle salariée depuis janvier. On gère un festival à l'année qui s'appelle le Festival des Mouillotins, plus l'espace de vie sociale qui est un lieu de rencontre où on y fait des ateliers, où on prépare le festival un petit peu, en fait avec des ateliers de bricolage, de couture, il peut y avoir tout type d'ateliers, c'est à la proposition aussi des habitants. Voilà, ça nous occupe bien pendant toute l'année tout ça.
Et donc le Festival des Mouillotins qui, ça y est, revient pour cet été. Alors normalement, les habitués le savent très bien, c'est en juin. Là, ce sera fin août. Mais j'imagine que ça fait du bien en tout cas de, ça y est, pouvoir reprogrammer un festival
Oui, ça fait du bien. Donc c'est le 27-28, mais du coup on est content de le retrouver, le festival, et de le repartager à nouveau avec les habitants de la Mayenne en général. On est sur une édition un petit peu particulière, c'est vrai, avec les conditions qu'on a dû adapter. Mais voilà, ça nous tenait à cœur de proposer enfin une formule cette année, puisqu'il ne se passe pas non plus grand-chose et que c'est quand même assez complexe de mettre des organisations en marche cette année. Donc voilà, ça nous tenait à cœur d'être présents en tout cas.
Alors justement, qu'est-ce qui attend les spectateurs et les festivaliers qui viendront donc bien les 27 et 28 août à Saint-Pois ?
Plusieurs choses. Ça démarrera dès le vendredi soir, donc à partir de 18h, on retrouve trois concerts et suivi d'interplateaux à chaque fois. L'idée des interplateaux, c'est qu'on avait envie de mettre en valeur des associations locales à qui on proposera une carte blanche et qui viendront proposer eux-mêmes des artistes qui viendront jouer sur des temps entre les groupes plus importants, disons. Et donc le vendredi soir, on a trois groupes. Ça commence avec Monsieur Giscard, qui est un artiste, je crois qu'il vient de Paris. C'est un rap qui s'appelle un peu Nonchalant. On sent que c'est un album qui a sans doute été travaillé un peu pendant le confinement, en home studio, un truc un peu de bricolage, mais qui est un peu dansant quand même et assez chouette à retrouver, qui, on espère, va grandir un peu parce que c'est un nouveau projet. Il a fait assez peu de concerts pour le moment. Ensuite, on aura Clone d'ailleurs, qu'on prononce. Alors ça, c'est un groupe assez particulier. Ils sont, je crois, 7 sur scène. C'est un groupe qui est assez jeune, entre 20 et 25 ans je dirais, et en fait ils vivent tous en colocation ensemble, et c'est comme ça qu'ils ont créé les morceaux. C'est des morceaux assez engagés sur des thèmes qui leur tiennent à cœur, avec des artistes assez finalement androgynes, je trouve, sur scène, et donc assez festif aussi. Et ça termine le vendredi avec Brahma, qui est un trio batterie, guitare, rouviel, qui est un vieil instrument sur du rock un peu psyché, qui je pense, il n'y a pas beaucoup de paroles, donc ça peut vraiment créer un univers dansant assez chouette en fin de soirée. Et donc après on enchaîne avec le samedi, qui est une journée plus pour les familles, on l'a un peu thématisé comme ça disons, avec une partie gratuite dans la journée à partir de 13h. Il y a le marché des créaturistes qu'on a créé cette année avec justement la commission espace de vie sociale de l'association. Donc l'idée, c'est de retrouver des artisans, des créateurs, des créatrices en local. Donc il y aura des ateliers un peu de sérigraphie, de la gravure sur gomme, différentes propositions. En fait, l'idée, c'est de proposer un atelier où on peut aussi un petit peu participer, que ce soit pas juste un lieu de vente, mais aussi un lieu d'échange, un peu à l'image de ce qu'on fait à l'année justement avec l'espace de vie sociale dont je parlais tout à l'heure, avec des jeux de société, des jeux en bois l'après-midi et un peu de musique pour passer un bon moment aussi. Et le soir, on enchaînera ensuite avec une soirée sur le même lieu que la veille du vendredi soir. Donc là, on aura trois concerts à nouveau et une nouvelle carte blanche proposée à une autre association. Pour faire un bref aperçu de la programmation, on part sur Niteroi en ouverture, qui est un groupe que moi j'aime beaucoup. C'est un groupe qui vient de Rennes, c'est des anciens de Born Idiot, un groupe rennais aussi, donc avec un esprit un peu bossa, du chant en portugais. On aura le soleil avec nous en plus ce jour-là, ce sera magnifique, et donc il fera beau, ce sera chantant, dansant, pour commencer en douceur la soirée. Et ensuite, on aura L'Audio, qui est un groupe qui vient d'Angers, qui est un peu plus connu. C'est ce qu'on pourrait dire un petit peu notre tête d'affiche cette année, même si on n'emploie pas forcément ces termes-là d'habitude, mais un groupe un peu plus âgé, des chansons textes avec une profondeur assez intéressante. Ils sont au moins 5 sur scène aussi, on a beaucoup de monde sur scène cette année, donc il y aura vraiment des choses à voir. Et on enchaînera avec Cumbia Buroka, qui est un groupe justement de cumbia, donc là vraiment festif, dansant, et je crois que là ils sont maintenant 8 sur scène, donc vraiment il y aura de quoi voir.
Donc un programme quand même assez dense sur ces deux jours, même s'il est peut-être un peu moins chargé que d'habitude. J'avais cru voir aussi, avec l'association Atmosphère 53, qu'il y avait un cinéma de plein air, pour le coup, le dimanche.
Tout à fait, oui, c'est ça. On s'est associé aussi avec le comité des fêtes en fait, de Saint-Pois, qui lui-même s'est associé avec Atmosphère 53 pour une proposition de cinéma plein air. Et donc, en gratuit, on peut retrouver le dimanche la projection de Édouard aux mains d'argent. C'est du coup sur le terrain de foot où on fait d'habitude le festival. C'est une proposition gratuite pour les familles avec des jeux l'après-midi. C'est à l'occasion des 30 ans du film en fait qu'ils ont décidé de programmer ce film.
Effectivement, là aussi, ça enrichit encore la proposition. On parlait de ce petit changement de lieu, donc ce ne sera plus sur le terrain de foot, mais bien dans le centre-ville de Saint-Poix. Il y a d'autres petits changements qui ont été opérés, notamment au niveau des tarifs et de la manière dont on peut tout simplement participer au festival.
Oui, il y a pas mal de changements cette année, c'est une version assez unique finalement. Donc on est sur en centre-ville avec une jauge à 1000 personnes au lieu de 5000 par soir. Voilà, on a décidé de passer en payant puisque on est quand même sur des horaires de 18h à minuit pour aussi éviter les nuisances sonores dans le bourg. Tous ces paramètres font qu'on avait besoin de recréer une entrée de financière quelque part puisque il y a une grande partie de notre budget fonctionne grâce aux recettes propres qui sont liées au bar ou à la restauration, et donc en ayant moins de personnes sur un horaire plus restreint, ça venait créer un trou, et donc voilà, il fallait aussi compenser. Donc on a une billetterie qui est en place où on peut acheter des billets.
Pour être sûr d'avoir sa place aussi, puisque habituellement le festival accueille près de 5000 festivaliers, là forcément les jauges seront plus réduites.
Alors après, ça sera pas forcément les mêmes publics, et donc ça avait été un peu une surprise pour nous aussi finalement, parce que d'habitude c'est peut-être beaucoup de jeunes qui viennent aussi grâce à la gratuité. Donc là, on va voir, ça va peut-être créer autre chose. J'ai oublié de préciser, c'est vrai que de toute façon il y a aussi le pass culture qui est disponible, donc ça veut dire que là, c'est une place gratuite aussi pour les jeunes de 18 ans. Donc l'un dans l'autre, peut-être qu'on va retrouver un petit mélange de ce qu'on est aussi sur le terrain de foot et ce qu'on va devenir un petit peu sur ce terrain en centre-bourg, quoi.
Même s'il y a aussi moins de bénévoles, puisque une édition un peu plus réduite que les autres années, j'imagine que ça fait du bien aussi et aux bénévoles et à vous organisateurs de tous se retrouver et de enfin se retrouver autour de la musique.
Et ben oui, c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'était pour renouer aussi avec tous les bénévoles avec qui on est à l'année et dans les années passées. C'est vrai que d'habitude on est 400 bénévoles sur le terrain de foot, là on vise plutôt autour de 200 personnes pour que le festival puisse bien fonctionner. Donc il y a ceux qui sont un peu nostalgiques du terrain de foot en disant oui mais cette année c'est un peu différent, et puis d'autres qui disent bah, en même temps on est tellement contents de faire enfin quelque chose, parce que c'est des personnes qui peuvent être aussi bénévoles dans d'autres lieux. Et donc qui n'ont pas forcément eu d'occasion cette année de donner du temps aussi comme elles aiment le faire. Donc l'un dans l'autre, je pense que le samedi soir à la fin de cette édition, les gens ont été quand même contents de se retrouver, quoi.
Desapareceu desse mundo. Eu parei de pensar. Mas um momento sem você.
Viteroy avec Parade et Pensar. L'artiste ouvrira la soirée de samedi. Pour rappel, le pass sanitaire est exigé pour les deux jours. La billetterie est accessible sur mouillotin.fr. Ce week-end également, de la capoeira, du vélo et d'autres animations au programme grâce à la Roda Road, organisée par le COB Mayenne Capoeira Origem do Brasil. Une sorte de rallye à vélo sur deux jours entre toutes les villes qui accueillent des cours de capoeira, de Château-Gontier à Évron, en passant par Laval et Mayenne, avec bien sûr des initiations et des démonstrations de cet art martial brésilien. L'événement se veut accessible à tous.
Bonjour, moi c'est Guillaume Le Breton, donc je suis professeur de capoeira pour les villes de Vilaine-la-Juhel, Évron et Laval, au sein du COB, donc, qui est le collectif Capoeira Origem do Brasil.
Qui organise justement du 27 au 29 août la Roda Road Capoeira Bicicleta, alors je ne dois pas du tout le dire avec l'accent. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel événement ?
Traditionnellement, on organise un festival annuel de capoeira et c'est vrai que la situation nous a un peu obligés de se réorganiser et de trouver des nouvelles idées. Donc l'idée, c'était de rassembler les 6 villes dans lesquelles notre collectif donne les cours. Rien de mieux que de faire découvrir également notre département, donc en arborant les routes de la Mayenne par le halage, les voies vertes, alliant un peu l'écologie, on a choisi le vélo comme moyen de transport. Donc on va parcourir la Mayenne en vélo et dans chaque ville, il y aura des animations, bien sûr, et la capoeira mis en avant en surbrillance. Alors la capoeira, c'est un art martial qui a été créé au Brésil par les esclaves venus d'Afrique. En fait, ils n'avaient pas le droit de se défendre, de se battre. Et donc, ils ont créé cet art martial qui était un peu une supercherie. Ils ont un peu fait croire que c'était de la danse vue de l'extérieur. Mais finalement, c'était un entraînement au combat. Et c'est ce qui leur a permis par la suite donc d'acquérir une partie de leur liberté. Et donc aujourd'hui, nous, on le pratique en Mayenne depuis plusieurs années. On est présent donc sur 6 villes. On est 3 enseignants. Donc il y a moi, Guillaume, il y a Fabrice Duchesne, qui de son surnom c'est Ogre, et Christophe Poirier, son surnom Bombère. Donc voilà.
L'idée c'est dans les 6 villes, il y aura des démonstrations, mais aussi des initiations pour ceux qui le souhaitent.
Alors oui, on a souhaité aussi faire découvrir, donc gratuitement, hein, pour les enfants, les adultes, on va faire donc des initiations, puis par la suite on fera des démonstrations. On a également fait venir des professionnels qui viennent de plusieurs villes de France et d'ailleurs également, on a de la Belgique qui vient, du Portugal. En France, on a des gens qui viennent de Brest, de Saint-Maxence dans le centre de la France. Enfin, ça va réunir aussi la communauté de la capoeira au sens large, en plus, et donc une grosse fête. C'est le Brésil qui vient en Mayenne quand même, ça va être sympa.
On va le retrouver forcément lors des initiations, là ça paraît évident, mais même tout au long des deux jours, voire même des trois jours, c'est vraiment l'alliance du Brésil et de la Mayenne finalement.
Oui, exactement. Donc en plus, on a des villes chez qui on donne pas de cours, mais où on va faire un peu la fête, notamment Aurigné, qui est la mairie qui nous accueille avec leur commerce, le Beyel. On va avoir un concert avec le collectif Timpis, qui est un collectif mayennais, avec une chanson sympa justement qui s'appelle « Ma petite Mayenne », d'où le clip a été tourné sur le halage. Donc parfait, tout va bien avec notre projet. Le lendemain, on va être à la Traversaine, à la base de loisirs, avec l'association Mayenne Loisirs, où là, on va faire un concert donc brésilien, en plein air, avec des initiations sur la danse brésilienne, défilés sur les maillots de bain brésiliens, etc. C'est vraiment un événement qui à la fois va allier les associations de la région, enfin du département, les commerces, les mairies. Enfin, l'idée, c'est vraiment que ça soit une fête entre tous. Enfin, si tout le monde peut participer, c'est très bien. On veut vraiment partager avec le maximum de personnes. Voilà.
La capoeira, l'idée, c'est aussi que certains peut-être s'inscrivent pour la rentrée si ça leur plaît. C'est aussi l'objectif ?
Bien sûr, l'objectif, c'est bien sûr de faire découvrir ce qu'on fait. Et évidemment, peut-être plaire à des enfants qui n'ont pas encore choisi leur activité pour les prochaines. La capoeira, elle a cette magie, en fait, c'est que j'ai vu beaucoup d'articles sur l'enfant et le développement. On va dire qu'il faut une activité culturelle, une activité physique. L'avantage de la capoeira, c'est qu'on va tout retrouver. Un enfant veut faire de la gymnastique, veut faire de la danse, il veut faire un art martial et il veut faire de la musique. Il vient de faire la capoeira, il a la chance de pouvoir tout faire en un seul. Donc pour les parents, c'est pratique au niveau logistique, ça évite de les emmener dans différents cours. Ils viennent juste chez nous et tout va bien.
Cette dimension est culturelle qui est très importante aussi pendant les séances.
Et oui, donc en fait, la capoeira est le seul art martial à ma connaissance qui est pratiqué avec de la musique en permanence. Donc on apprend également les instruments de musique et en plus on apprend le portugais puisqu'on chante et on chante en portugais. Donc il y a ce côté sympa, voilà. Au-delà du sport, il y a le côté culturel, donc c'est vraiment sport et culture, c'est vraiment intéressant. Moi je vous laisse le découvrir, hein. Mais essayez, c'est surtout essayer. Il faut savoir que même quand on donne les cours, on a toujours 2 à 3 cours offerts de façon à que les enfants ou les parents puissent vraiment tester, voir si ça leur convient.
C'est accessible à partir de quel âge finalement ?
Alors, on n'a pas forcément un âge pour démarrer. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant il s'amuse. Si il peut tenir une heure de cours à s'amuser avec nous, tout va bien. Donc, ça peut être vers les 4 ans, les 5 ans. Après, les adultes, c'est pareil. Souvent, on nous dit « mais je vais être incapable de faire ce que vous faites ». C'est parce qu'on demande, il n'y a pas de prérequis pour faire la capora. En fait, l'agilité, on l'apprend au fur et à mesure. On remet notre corps en route également. On travaille sur la mobilité. Donc, voyez, moi, par exemple, je suis enseignant de capora, mais je suis aussi prof de pilates. Donc, tout ce qui est bien-être, mobilité, je connais et je suis capable d'accompagner des personnes qui ont des difficultés et finalement on les accompagne et après ils sont très contents, ça leur va bien.
On peut venir vous voir même si on n'est pas un sportif accompli, on peut y trouver son bonheur quoi.
Exactement. D'ailleurs, quand on voit les démonstrations de capora, c'est un art martial où c'est rare. On va voir peut-être un papy de plus de 100 ans, on va dire, jouer la capora avec un enfant de 5 ans. Et vous voyez, ça, c'est magique parce que ça, dans beaucoup d'arts martiaux, il y a le côté compétition et on va avoir des catégories. Nous, il n'y a pas de catégorie. Que vous soyez un homme, une femme, un grand, un petit, peu importe, la capora, ça se joue. C'est pas un combat, vous voyez. On joue la capora, donc on s'amuse. On est dans cet esprit de fête, hein, malgré le côté martial quand même qui est... quelque part, caché, dissimulé, comme le faisaient les esclaves à l'époque.
On pourra vous rejoindre un petit peu tout au long de ce parcours, en tout cas, dans n'importe quelle ville, même si on a envie simplement sur un bout du parcours ou de voir une initiation, c'est possible.
Oui, alors en fait, cet événement est vraiment ouvert à tous, notamment la partie vélo. Quelqu'un veut juste se promener avec nous, il a le droit. Il n'est pas obligé de parcourir l'ensemble du parcours, il a la possibilité de faire les tronçons. Il y a donc les initiations dans chaque ville, pareil, il peut participer aux initiations. Certains vont vouloir peut-être juste être spectateurs, d'autres même acteurs. Tout est prévu pour que chacun y trouve son compte, qu'il fasse partie de notre association ou pas. Tout le monde est bienvenu, même s'il ne s'inscrit pas l'année prochaine. Même si d'autres associations souhaitent suivre le mouvement et faire des stands dans les villes où on va faire des animations, bien sûr, ils sont également les bienvenus puisque, comme je dis, hein, c'est vraiment un événement ouvert à tous, pour tous et tous ensemble. Quoi. On a passé un moment un peu confiné, mais il faut qu'on s'ouvre maintenant, il faut qu'on profite.
Une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect solidaire aussi de l'événement. Qu'est-ce qui sera reversé à une association ?
Alors donc on a mis en vente un t-shirt sur notre site internet, donc un t-shirt qui a été en partie financé par la Fédération Sportive et Culturelle de France, qui est au prix de 20 €. Donc là les précommandes sont déjà passées mais il y en aura d'autres à vendre sur le site. Tous les bénéfices de ces t-shirts vont être mis dans une caisse pour qu'on puisse partir une petite équipe au Burkina Faso, puisque sur place là-bas on a déjà un travail qui a commencé, on fait découvrir la capora dans les écoles. Alors les écoles c'est pas comme chez nous, hein. Là-bas c'est des écoles un peu différentes. Et surtout il y a un vrai partenariat avec des acteurs locaux qui sont aussi venus en Mayenne il y a déjà 3 ans. Puis l'idée, c'est aussi d'apporter des fournitures scolaires, faire un peu d'humanitaire. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc notre projet est parti en 2022. Alors effectivement, ça sera juste une participation au budget de ce voyage. Mais voilà, si vous voulez acheter le t-shirt, vous ferez une bonne action. Vous aurez un beau t-shirt en plus.
C'est l'histoire de la forêt que vous avez vous-même plantée à Villaines-la-Juhel. Alors c'est la première, mais l'objectif, c'est d'en planter dans toutes les villes où justement il y a des cours de capoeira.
Oui, donc la municipalité de Villaines-la-Juhel nous a offert la possibilité d'avoir un site sur lequel on a planté des arbres. Donc chaque élève a planté un arbre pour la commémoration un peu sur l'écologie avec la déforestation de l'Amazonie. Et au centre de cette forêt qui est en train de pousser, puisque les arbres sont encore petits, on a un cercle qui représente donc la rode. La rode, c'est le cercle dans lequel on joue la capoeira. Cette rode est reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc on est sur le site de l'ancienne déchetterie de Villaines-la-Juhel. Et donc l'idée, effectivement, ça serait de créer cette forêt. Donc on l'a appelée la forêt David, c'est la forêt de la vie, un peu partout, donc dans les autres villes. Ça serait vraiment intéressant si les municipalités nous entendent. On est demandeurs. Je sais qu'il y a des projets déjà qui sont un peu avec les communes de Château-Gontier. J'en ai déjà parlé à la mairie d'Evron, mais vraiment, on aimerait vraiment, parce que l'idée, c'est peut-être de refaire le road à road dans 2 ans, et plutôt que d'aller de ville en ville, ce serait d'aller de Foresta Davida en Foresta Davida. Ça pourrait être encore mieux. Ça serait vraiment un souhait sympa.
Programme complet de ce week-end avec les horaires à retrouver sur cob-capoeira.com. Bon, alors, pour le vélo et la capoeira, il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Donc, j'ai compris, je m'y mets tout de suite. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une toute nouvelle émission juste sortie du four. Ça, c'est certain. En revanche, je vous l'assure et je vous souhaite surtout un très bon après-midi et une très belle semaine.
C'est l'été sur l'autre radio.